Donc, bonjour. Avant de commencer mon exposé, je compléterai un peu la présentation qu'a fait Anne Blanchet. Donc, j'ai eu en fait un double cursus. J'ai eu des postes opérationnels et puis je me suis consacré pas mal de temps. J'ai consacré pas mal de temps à l'étude et à la recherche. En tant qu'opérationnel, j'ai eu des postes en aménagement, en urbanisme auprès de collectivités locales. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de maîtrise d'ouvrage pour des maîtres d'ouvrage privés. Donc j'ai cette composante opérationnelle. Et puis, comme l'a dit Anne, j'ai publié deux livres. Donc j'affiche leur couverture. Donc De l'espace au territoire qu'on avait écrit en 97 à l'occasion du 250e anniversaire de l'école des ponts et chaussées. Il nous avait semblé que ce thème était était adéquat pour illustrer l'action des ingénieurs des ponts sur le territoire en matière d'équipement et d'aménagement. Et le deuxième bouquin, donc, c'est Paysages en mouvement, que j'avais publié sous la direction de Pierre Nora à Gallimard, qui s'intéressait non pas à l'infrastructure, mais à l'expérience du voyageur, à ce qu'il voit et donc à l'idée de paysage. Et avec du recul, en fait, ce livre s'inscrit dans ce qu'on appelle le tournant culturel de l'historiographie des techniques, c'est-à-dire qu'on s'intéresse peut-être moins au réseau, moins aux infrastructures, mais plus à l'expérience du voyageur, à sa mobilité, à la façon dont il fabrique sa mobilité, et aussi à son intermobilité. Donc vous voyez que ces questions d'historiographie rejoignent des questions actuelles sur comment on appréhende les transports. Alors, l'aménagement du territoire est souvent conçu comme une sorte de géographie volontaire où on distribue les établissements urbains, les équipements industriels, les réseaux de transport sur le fond du territoire national, sur le fond, la carte unifiée du territoire national. Alors, cette conception a certes prévalu dans les années 60. On le verra avec quand on abordera la question de la DATAR. Mais en fait, elle a des antécédents. Elle a été rendue possible et nécessaire par pas mal d'antécédents, et c'est ces antécédents que je vous propose de voir. Donc, en quelque sorte, faire la préhistoire de l'aménagement du territoire en France. Alors, ça peut paraître ambitieux en une heure de dresser un grand portrait, mais c'est le jeu, et vous verrez que ça fait apparaître certaines permanences qui sont très intéressantes. Alors, l'aménagement du territoire intéresse le géographe, mais aussi l'économiste, mais aussi l'ingénieur, mais aussi le politiste. Et moi, j'ai choisi de tirer avec vous un fil qui est celui des réseaux, les réseaux techniques, les réseaux de transport plus particulièrement. Alors, j'évoquerai aussi les noyaux urbains, la trame urbaine qui structure le territoire national. J'évoquerai moins l'espace rural, j'évoquerai encore moins l'espace naturel. C'est, si vous voulez, un peu l'angle mort de ma démarche. On pourra en reparler à la fin quand on abordera les questions. Donc, je vais commencer les origines de l'aménagement du territoire. Quand on parle d'origine, il est difficile de se fixer une borne antérieure. On pourrait choisir, par exemple, la construction du Havre par François Ier ou la charge de Grand Voyer de Sully à la fin du XVIe siècle. Mais il est certain qu'un seuil est très important, c'est celui du XVIIe, avec la stabilisation de la frontière nord-est du royaume à la suite des guerres de Louis XIV et la fameuse ceinture de fer que va construire Vauban en fortifiant plus d'une centaine de citadelles, places fortes et bastions. Donc, c'est un petit peu ce point-là que je prendrai comme origine. Et au XVIIe siècle, les travaux sont conduits non seulement aux limites du royaume, mais aussi à l'intérieur. Donc, aux limites du royaume, je les ai cités, c'est les travaux de fortification de Vauban. C'est aussi des travaux de port, la construction du port de Brest, la construction du port de Lorient, de Sète. Et à l'intérieur, les travaux portent principalement sur les canaux, parce que la voie navigable reste le transport majeur au XVIIe siècle, avec le canot de Briard en 1742, ou alors le canal des deux mers, ou encore dit canal du Midi, de Riquet, ou le canal d'Orléans, qui sont respectivement de 1680 et 1790. Donc, Et pour ces infrastructures-là, je ne rentre pas dans le détail, mais les financements, les sources de financement sont les plus diverses. Alors, à côté de ces travaux d'infrastructure, il y a un autre chantier qui est mené. C'est celui de la carte de France. C'est un chantier de nature intellectuelle, mais on conçoit bien que sans représentation exacte du territoire, il est difficile de mener à bien des politiques d'aménagement jusqu'à une certaine extension, dirons-nous. Et donc, les académiciens dont l'Académie des sciences est créée en 1666 proposent au pouvoir royal de dresser une carte rigoureuse de France en dressant une triangulation à partir de laquelle des relevés plus précis vont pouvoir être conduits. Et en 1682, on a la première carte des côtes de France. Donc vous voyez en très fin l'ancien relief, l'ancien tracé tel qu'on se l'imaginait, et en très fort le nouveau tracé. Donc devant ce nouveau tracé qui en fait recouvre une surface moindre que la précédente, Louis XIV dit à ces messieurs de l'Académie qui lui ont fait perdre plus de terrain que toutes ces guerres réunies. Alors cette boutade peut être aussi entendue dans un sens symbolique parce que en effet, un territoire qui est représenté scientifiquement est un territoire qui est plus maîtrisable et plus petit en un sens. Donc c'est le sens symbolique qu'on peut voir à cette boutade. Alors il y a un art qui réunit à la fois l'art des fortifications, l'art des hydrauliciens, l'art des géomètres. C'est de l'avis de tous les historiens l'art des jardins. Et là je vous projette une vue du jardin des Tuileries par Israël Sylvestre, une gravure de 1670 qui est conservée au Louvre et qui illustre donc cette conjonction toute particulière du jardin à la française où les différents arts se mêlent et se conjuguent. Alors on voit un grand axe qui illustre l'idée d'infini au XVIIe siècle et qui sera permanent, dont la permanence va conduire à, ben, vous le savez bien, aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, à l'avenue de la Grande Armée jusqu'au grand axe de la Défense. Donc ça, c'est une origine. Une œuvre qui va apparaître majeure dans l'élaboration du territoire, c'est la route du XVIIIe siècle. Alors la route du XVIIIe siècle peut paraître comme... la route en France peut paraître comme une lente sédimentation. En fait, au XVIIIe siècle, on doit véritablement parler d'une mutation de la route. L'attention portée à la route est bien sûr stratégique, administrative, mais aussi économique. Et les différents courants de pensée économique tels que les physiocrates ou les néo-mercantilistes vont apporter une grande attention à la route. Et c'est ce qui explique que l'administration de la route, des ponts et chaussées, est rattachée au contrôleur général des finances, Philibert Horry. Et c'est ce même Horry qui, en 1738, va signer un arrêt sur la réparation des grands chemins royaux qui va lancer véritablement la politique routière. Alors, réparer les grands chemins royaux, ça peut paraître un petit peu flou comme terme. Et en fait, il faut bien s'imaginer qu'au début du siècle, au début du XVIIIe siècle, la route est le plus souvent un chemin naturel en terre et qui fluctue. Il fluctue à l'échelle locale, il empiète sur les pâtures communes. Il fluctue aussi à l'échelle globale. Par exemple, entre Paris et Toulouse, plusieurs itinéraires sont possibles et selon les saisons. Et donc, la première tâche de l'administration va être de choisir des itinéraires et ensuite seulement de construire des chaussées en dur par la technique de l'empierrement. Alors, cette politique va être fructueuse puisque un mémoire de la fin du XVIIIe siècle dit que 26 000 kilomètres de route ont été construites, que la capitale est reliée à toutes les frontières, à toutes les grandes généralités, et donc on peut considérer que cette politique a été un succès. Alors, comment expliquer le succès? Je pense qu'il faut concevoir cette politique comme bénéficiant à la fois d'un héritage et de novation. L'héritage, c'est le corps des ponts et chaussées qui est créé des ingénieurs qui est créé en 1716 sur des modèles du 18e, du 17e, comme le corps des ingénieurs du génie, et qui va être rénové au cours du 18e. Donc ça, c'est un premier héritage. Le deuxième héritage, c'est la corvée. Alors je crois qu'il y a un midi de l'histoire, il y a 2 ans, qui avait été consacré à la corvée, qui est un impôt en nature que tous les sujets taillables doivent à leur seigneur. et qui va être avéré comme le moyen de financement le plus immédiat de la politique routière du XVIIIe. Et enfin, une troisième partie de l'héritage, c'est toute une série d'arrêts en Conseil du roi, un peu techniques sur la dénomination des voies, leur largeur, la nécessité de plantation d'alignement, l'autorisation de prélever des matériaux dans le voisinage immédiat. Donc, bref, tout un appareil technique qui va être mis en œuvre. Alors, quelles sont les novations qui vont permettre de bénéficier de cet héritage? Une des premières novations, c'est en 1743, la création d'un bureau dit « bureau des dessinateurs » qui va être mis sous les ordres d'un géographe, qui va consister à réunir toutes les cartes des projets routiers et à les mettre au propre et à constituer ainsi des grands atlas qui sont atlas dits Truden-Péronnet. Ça dépend si vous faites attention à l'intendant chargé du détail des ponts et chaussées ou un ingénieur, et qui sont conservés aux archives nationales. Alors là, je vous montre un extrait de l'atlas Truden-Péronnet de l'itinéraire entre Paris et Lyon à la hauteur de Corbeil-Essonnes. Alors, ce document est remarquable à plusieurs titres. Alors, il est projeté avec une pas très bonne précision, je m'en excuse. On voit d'abord les tracés rectilignes. Ensuite, on voit les plantations d'alignement. Ensuite, on voit aussi la similitude qui existe entre le fait la route et l'allée d'un parc. Là, par exemple, attendez, ça ne marche pas, voilà, la route rectiligne et l'allée d'un parc. C'est une parenté qui existe dans l'esprit de tous les gens de l'époque. Et enfin, ce qui est le plus remarquable, en fait, c'est l'absence de cartouches, l'absence de légendes et, en fait, l'absence de codification. L'ingénieur note tous les détails, les bosquets, les cours d'eau, les fermes, les taillis, de façon quasiment réaliste. Il n'y a pas encore de codification cartographique et en particulier, il n'y a pas de notation du relief. Premier héritage, donc, le bureau dessinateur qui va se voir confier une tâche pédagogique et en 1747, ça va devenir l'école des ponts et chaussées, grosso modo, hein, je vais vite. Une deuxième novation, c'est l'assemblée du corps des ponts et chaussées, une assemblée où les ingénieurs se réunissent pour coordonner leur action. Et enfin, il y a deux autres novations qui vont importer au cours du siècle. C'est la construction des ponts. On change de modèle de pont. Je ne vous ai pas mis une reproduction de pont, mais on a un tablier plat, des arcs abaissés, des culées importantes qui reprennent les efforts. Donc, c'est un nouveau pont. Et aussi, le programme routier rentre en résonance avec le programme des ponts et le programme d'embellissement des villes. Alors, ce qu'on appelle embellissement des villes au XVIIIe, ce n'est pas seulement faire des belles places régulières avec des statues équestres, c'est aussi tout un programme d'assainissement et d'équipement urbain des villes. Et là, je vous présente le pont de Moulins par l'ingénieur Regemorte en 1760, où l'on voit quand même plusieurs choses. Le pont qui est là, les têtes de pont qui sont là avec les ouvrages de quai, la régulation de la rivière du cours de l'Allier, la prolongation de la tête de pont qui traverse la ville et qui devrait rejoindre cette voie-là, donc qui casse le tissu moyenâgeux. Et enfin, vous avez la notion de faubourg, l'idée de reprendre du terrain sur le fleuve et d'organiser la croissance urbaine. Donc on voit là l'interaction entre route, pont et embellissement des villes. Et du coup, la route qui pouvait apparaître comme un programme modeste, si on se rappelle du titre du mémoire de Philibert Horry qui était « Réparer les grands chemins », la route apparaît comme une œuvre modernisatrice qui présente un territoire nouveau, un territoire qui est circulé, un territoire qui est propre à la circulation des biens, des personnes et des idées. Donc je vais vite, mais c'est un petit peu l'idée. Et le siècle suivant va être le siècle du chemin de fer et de l'osmanisation, si on peut dire. Les premières années du siècle, en fait, vont s'inscrire en continuité avec celles du XVIIIe. On va s'occuper du réseau routier. On va adopter une nouvelle technique d'empierrement qui consiste à diminuer les fondations et à faire une couche de roulement plus fragile qu'il faudra entretenir. C'est le projet de Macadam avec l'institution des cantonniers. Et on va, surtout, on va un peu mieux classer le réseau routier et on va en donner une grande partie aux départements qui ont été créés par la Révolution, sous la Révolution. Donc déjà, une sorte de partition qu'on retrouvera pendant toute l'histoire du territoire entre l'État et les collectivités territoriales, si l'on peut dire. Le deuxième réseau qui va continuer à recevoir une grande attention, c'est le réseau fluvial. Dans les années 20, sous la Restauration, il y a un plan qui est dit plan Becquet qui est lancé, qui prévoit un programme important. Alors ce plan ne sera pas... Je représente juste des travaux, un avis d'ingénieur sur les travaux sur l'Oise des années 1820. En haut, vous avez une vue du chantier et en bas, vous avez le cours régulé de l'Oise avec un quai régulier, une écluse et une chute d'eau qui assure... un bief plus plat. Donc ce plan va être en partie un échec, mais va apporter deux choses. D'abord, il va introduire la notion de réseau. Les ingénieurs vont moins penser de la liaison fluviale comme une relation de A à B, mais comme véritablement un réseau dont les barreaux peuvent s'équilibrer, donc la notion de réseau territorial. Et la deuxième, c'est que l'administration a imaginé, pour financer son plan, une séparation entre tracé, exécution des travaux, financement des travaux et péage. Donc déjà une notion d'économie mixte qui est très importante pour le réseau ferroviaire. Parce que, bien évidemment, la grande histoire du 19e, c'est le réseau ferroviaire. Je vais en rappeler les principales étapes, mais je ne pourrai pas être trop long. Je vais essayer d'aller assez vite avec ce schéma. Les premiers chemins de fer sont des chemins qui sont liés au monde de la mine. On voit le réseau le bassin stéphanois, là. On voit aussi une courte ligne entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. C'est que l'administration est très réticente devant cette technique qui mélange à la fois des ouvrages d'art et une technique industrielle. Et les chemins de fer font l'objet de grands débats. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quel doit être le rôle des entreprises privées, on ne sait pas quel tracé adopter. Par exemple, la ligne Paris-Le Havre et imaginez dès 1825, l'administration voudrait des tracés très rectilignes, très droits pour favoriser la vitesse, donc privilégie un tracé par les plateaux, alors que les compagnies privées veulent aller chercher la clientèle, évidemment, et donc privilégie un tracé par la vallée qui desservirait directement Rouen. Alors, la grande loi qui va mettre un peu de l'ordre dans tout ça et permettre l'expansion des réseaux, c'est la loi des ferroviaires de 1842 qui prévoit 7 axes rayonnants à partir de Paris. Et à partir de 1842, ce qui va être notable, c'est l'intervention de la grande banque parisienne dans le financement des réseaux, et en particulier le baron de Rothschild qui réunit tous les intérêts intéressés, les partenaires intéressés à la liaison Paris-Nord, qui va être inauguré en 1846. Alors là, c'est un peu la seconde phase des réseaux, si vous voulez, où on voit... on voit en 1946 la liaison Paris-Nord, par exemple, qui est réalisée, la liaison avec Rouen qui est passée et la liaison entre Paris et Orléans qui est prolongée, qui avait été ouverte en 1938. Donc, si vous voulez, c'est la phase où les réseaux se forment, réseau étant entendu ici en tant que compagnie gérant un faisceau ferroviaire homogène, avec des économies d'échelle et selon un parc de matériel roulant bien organisé. Ensuite, je vais très vite, hein, en 1851, donc Napoléon III arrive au pouvoir, c'est là la période d'expansion du chemin de fer et c'est en 1857, par exemple, que va être réalisée la liaison Paris-Marseille. Donc, qui est là. La date, c'est 1856. Donc, on peut considérer qu'à partir des années 1860, le chemin de fer est complètement établi en France. Entre 50 et 60, les réseaux est passé d'environ 4 000 4000 km à 16000 km. Là, on considère que plus rien ne peut résister à cette solution. Et par la suite, vous voyez le plan qui est, le réseau qui s'est densifié, c'est les plans qui vont être menés sous la Troisième République, dont le plan Fraissinet, qui va correspondre à une densification et aux chemins d'intérêt locaux. Donc, le territoire se modernise. Évidemment, les noyaux urbains vont se moderniser en écho à cette modernisation du territoire. Et on peut nommer ce qu'on pourrait appeler haussmannisation, le travail qui consiste à moderniser un noyau urbain ancien. Haussmann, on le sait en effet, modernise la ville de Paris, et ce modèle va être employé pour toutes les grandes villes de France. Cela consiste essentiellement à construire des réseaux d'eau, réseaux d'assainissement, réseaux de voirie, je vous montre. Alors bon, on n'a pas le temps d'en parler. C'est une planche sur la technologie ferroviaire et les grands ouvrages, mais je crois qu'il faut passer. Et je vous montre cette coupe sur le boulevard Haussmann de Paris, où on voit tous les réseaux on voit l'importance de l'espace public, de la voirie comme espace public, qui coordonne plusieurs techniques, des techniques de pavage, d'éclairage, de plantation, d'assainissement, de réseau, aussi une adéquation, enfin une réponse entre la prescription architecturale sur les façades et le gabarit de la voirie. Et ça, ce modèle va être très prégnant pendant de longues années. Il va pouvoir supporter l'insertion du réseau téléphonique ou du réseau métropolitain, par exemple. Et il va, si vous voulez, durer jusqu'à l'arrivée de l'automobile en ville, qui, elle, va induire une séparation entre voirie et bâti, et ce qui va se faire avec la théorie des congrès d'architecture moderne à partir des années 30. Mais c'est un modèle qui va être très prégnant dans beaucoup de villes de France. Donc, je passe au XXe siècle. Et avec l'entre-deux-guerres et l'aménagement du territoire régional à l'échelle de la région. Dans l'entre-deux-guerres, je vais essayer d'aller rapidement. En fait, le nouveau véhicule du XXe siècle, c'est l'automobile, comme chacun sait. Au début du XXe siècle, l'automobile, l'industrie française est très performante. Et ce sont les routes nationales qui vont servir de banc d'essai aux premières courses automobiles. Là, c'est la célèbre photo de l'article de 1911 du Grand Prix de l'Automobile Club de France. Donc, les routes françaises vont servir de banc d'essai aux premiers véhicules. La route va s'avérer inadéquate avec tous ces virages, tous ces chemins, croisements de chemins de fer non protégés, cette espèce d'abandon relatif qu'elle avait connu au XIXe siècle. Donc l'administration française va s'employer à moderniser le réseau routier, à le rectifier, à l'équiper de signalisation, etc. Et donc, ce faisant, elle va moderniser son réseau routier, alors que d'autres pays dans lesquels des réseaux routiers n'existent pas réellement, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les États-Unis, eux vont s'orienter vers une solution nouvelle qui va être de construire des routes spéciales pour les automobiles, donc des autoroutes. Donc en France, on va pendant de longues années connaître un certain retard autoroutier, tandis que des pays tels que l'Allemagne, ou l'Italie ou les États-Unis vont être en avance, vont se lancer dans la construction d'un réseau autoroutier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, par exemple, grâce aux économistes, grâce aux géographes, on va penser à l'inscription de ces réseaux routiers dans le territoire. On va poser des questions comme le coût de la congestion urbaine, le coût des transports des marchandises, et on va se lancer dans cette... On va inaugurer cette discipline qui va s'appeler Raumordnung, ou en français mise en ordre dans l'espace, ou plutôt en français aménagement du territoire, qui est donc vivante en Allemagne et qui sera absente en France. Alors, en France, on prévoit quand même quelques autoroutes qui sont principalement des autoroutes de dégagement autour des grands centres urbains, autour de Paris, autour de Lyon. Mais ces projets pataugent, si je puis dire. Et si on y réfléchit, il faut prendre un petit peu de distance pour comprendre pourquoi seulement des autoroutes de liaison sont créées dans les années, conçues dans les années 30. C'est qu'en fait, le territoire français connaît une évolution un petit peu paradoxale. Le monde rural est stable. Ce n'est que dans les années 30 que la population urbaine dépasse la population rurale, donc très tardivement par rapport à d'autres pays, tandis que certaines régions françaises connaissent un important essor démographique, des régions qui avaient participé à l'effort de guerre de 14-18, et surtout la région parisienne, qui a une sorte de santé éclatante, qui concentre tous les pouvoirs, tous les savoirs, qui jouit d'un prestige important. Cependant, cette croissance urbaine a du mal à se faire à Paris. La population interne intramuros plafonne à 3 millions et tout le reste déborde, si vous voulez, en banlieue, où les solutions, où la seule solution qui se trouve adéquate, ce sont les lotissements. Les lotissements le plus souvent défectueux, d'où l'expression mal loti. Et devant ce désordre, devant cette pagaille, les pouvoirs publics décident de lancer une réflexion sur l'aménagement régional. Donc la réflexion va être conduite par sera bicéphale, Raoul Dautry et Henri Prost comme architectes, et l'un le premier comme ingénieur, le second comme... Et on conçoit un plan d'aménagement de la région parisienne, le PARP, qui est présenté en 34 et qui sera voté en 38. Et là, si vous voulez, on voit enfin, si je puis dire, l'autoroute intégrée à une vision planificatrice, puisque vous voyez le réseau routier, autoroutier prévu autour de la capitale. Je ne le détaille pas, on pourra y revenir. C'est donc en France, dans les années 30, que naît l'aménagement régional. Mais l'aménagement à l'échelle régionale et non pas encore territoriale. Je crois que c'est important de le noter. Alors, à la reconstruction, après la guerre, le pays est très endommagé. Vous le savez, je cite qu'un seul chiffre, 18 000 kilomètres de lignes ferrées sur un réseau de 40 000, seuls 18 000 restent circulables. Donc l'effort va être la reconstruction. Il va être encadré par les travaux du plan, dont l'espèce, qui n'est pas un exercice idéologique, mais plutôt un exercice pragmatique, et qui permet, dont la clarté va permettre de bénéficier de l'aide américaine. Et la construction de logements, les réseaux vont être construits. La SNCF, qui avait été nationalisée avant-guerre, va faire figure de proue dans la reconstruction des réseaux. Les logements vont être reconstruits selon les premiers plans d'aménagement, dans la législation des premiers plans d'aménagement. Et ce qu'il faut dire, c'est que si les réalisations sont de qualité, la reconstruction ne prend pas, si je puis dire. Il n'y a que 60 000 logements qui sont construits entre 46 et 48. Donc on voit que la solution de logement ne convient pas. Quant à l'industrie, le plan projette, l'idée c'est de projeter la nation française dans un avenir brillant, contrairement au malthusianisme des patrons d'avant-guerre. Mais voilà l'idée, il reste encore à la réaliser. Alors en 47, est publié un livre qui va faire date et qui va montrer tous les déséquilibres du territoire français. C'est Paris et le désert français d'un géographe qui s'appelle Jean-François Gravier. Donc qui pointe les déséquilibres du territoire français et qui incite à mener une politique d'aménagement du territoire. Alors, bien évidemment, le propos est un peu simplificateur puisqu'il oppose Paris et les régions en uniformisant le cas des régions. Et puis aussi, il est un peu paradoxal puisque pour contrer le centralisme parisien, il faut insuffler une politique qui viendrait de Paris. Donc là, il y a un petit paradoxe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette réflexion n'est pas isolée. Elle rejoint de nombreuses réflexions de géographes, dont Gabriel Dessus, pendant la guerre, qui avait plaidé pour une géographie volontaire de l'industrie en pointant les coûts de la congestion urbaine et qui avait incité à, donc, à répartir de façon plus harmonieuse l'industrie. Et c'est en 1949 qu'au ministère de la Reconstruction, la direction de l'habitat et de l'urbanisme va se scinder, va donner lieu à une direction de l'aménagement du territoire avec un plan pour l'aménagement du territoire. Et on va essayer de spatialiser donc l'action de l'État. Donc deux branches, si vous voulez, le plan qui s'intéresse au développement économique et le ministère de la Construction qui s'attache à la spatialisation, si vous voulez, des programmes en tenant compte des quartiers, de leurs nouveaux accessoires, selon l'expression de l'époque. Alors, les travaux de la reconstruction sont conduits au fil du temps et la politique de décentralisation industrielle va être engagée, elle, avec les seuls moyens de la contrainte des règlements d'urbanisme. Et c'est ainsi que Renault va construire une usine aux champs, comme dans les champs, à Flins, en 49, ou que Citroën va construire une usine à Rennes, en 53. Alors là, j'ai un tout petit peu triché, parce que j'ai mis en plein bocage breton, j'ai représenté l'usine de la Jeannet de Citroën à Rennes, mais qui date de 61. En fait, l'usine de Citroën qui est construite à l'époque que je mentionne en 53 est une usine beaucoup plus petite. Et sur la droite de l'écran, vous avez la répartition de l'industrie automobile en France entre 60 et 74. Et on voit bien cet effet de décentralisation autour de Paris qui se produit dans le territoire français. Au cours des années 50, la croissance va être très vive, comme vous le savez. La progression du PNB atteint environ 41% entre 50 et 58. Et l'effort d'équipement du territoire va se poursuivre. En matière de logement, je l'ai mentionné, si les programmes de reconstruction étaient de qualité, ils plafonnaient à une certaine limite. Au début des années 50, on construit que 100 000 logements environ par an. Ça ne suffit pas pour loger la population. Et à partir de 54, on se rallie au fameux thème des SIAM, des congrès internationaux d'architecture moderne, et on va se lancer dans la politique des grands ensembles. Donc là, c'est une vue de Sarcelles. On construit en 54, d'un seul coup, 13 000 logements. Donc avec beaucoup de problèmes, évidemment, vous vous en doutez, d'équipement, de dessertes, etc. Et il y a un mal qui est nommé à l'époque, c'est la sarcellite, pour désigner le malaise des habitants de ces ensembles-là. Les réseaux, l'industrie, je l'ai dit, continue à croître avec l'industrie de l'équipement et l'industrie automobile. C'est le fameux « les quatre roues de la fortune » d'Alfred Sauvy, qui désigne les bienfaits, enfin l'apport de l'industrie automobile. Et on peut s'inquiéter on peut s'interroger sur la répartition de cette croissance sur le territoire. Alors en fait, en 1954, le recensement de 1954 révèle que sur votre gauche, donc c'est la carte du recensement, avec en densité forte. Le pourcentage de population agricole. Donc on voit quelles sont les régions où la population agricole est forte, et c'est ce qu'on appelle à l'époque les régions attardées. Donc on oppose deux France, la France en avance et la France attardée. Et sur la droite de votre écran, vous avez... Alors on oppose deux France, on la sépare souvent par une ligne Saint-Malo-Marseille. En fait, les géographes hésitent. Ils ont du mal à interpréter les cartes. Et donc, sur la gauche, un schéma mentionne toutes les différentes lignes de partage entre la France attardée et la France en avance qui sont mentionnées à l'époque. Devant cette situation, les pouvoirs publics vont prendre toute une série de mesures à la fois techniques, économiques, économiques et réglementaires. L'idée, ça va être de contraindre, de limiter la croissance de la région parisienne, grand 1, grand 2, de favoriser les régions dites attardées, et grand 3, de favoriser les régions en dites critiques, ce sont les vieilles régions industrielles, du textile, du cuir, par exemple, qui sont déjà repérées à l'époque comme étant rentrées en crise d'obsolescence. Et donc... Donc pour aboutir, pour atteindre ces trois objectifs-là, plusieurs séries donc de décrets sont pris. Un premier décret concerne l'agrément de l'industrie. On impose un agrément. Toute construction industrielle dans un périmètre de 80 km autour de Paris doit être soumise à un agrément industriel. Et la deuxième mesure, c'est on impose au plan, de répartir spatialement son programme et d'établir des régions programmes. Et donc, c'est ainsi que 22 régions programmes sont instaurées en 56, très tôt donc, et c'est sur la base de la, c'est sur cette base que vont être établis les programmes du plan. Et c'est sur cette base aussi que les urbanismes et les aménageurs du ministère de la Reconstruction vont avoir tendance à établir leur programme. Donc on voit qu'au cours de ces années 50, il y a toute une série de décrets. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que parmi les instruments mis en... Enfin, ce qui vous intéresse, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs fonds qui sont mis en place, dont le FDES, le fonds de développement économique et social, qui va être géré par le ministère des Finances, qui va participer au financement des différents projets. Donc, on voit qu'au cours des années 50, plusieurs instruments sont mis en place. Ils demandent à être coordonnés. Et ils vont l'être au cours des années 60 avec la formation en 63 de la DATAR que le général de Gaulle va confier à un de ses proches, Olivier Guichard. Donc, en fait, il faut voir que c'est là l'aboutissement d'une longue évolution. En fait, Michel Debré avait, dès la fin des années 50, avait pris l'habitude de réunir un comité interministériel d'aménagement du territoire, un SIAT. Et je vous ai dit, les urbanistes du ministère de la Construction avaient eu tendance à se caler sur les régions programmes établies d'après les travaux du plan. Donc, on voit la convergence de deux actions qu'on lit bien dans le sigle d'ATAR. AT, c'est pour aménagement du territoire, donc plutôt les gens, les géographes, les gens qui s'occupent d'espace. Et AR, c'est plutôt pour l'action économique, l'action régionale, qui vient en écho, si vous voulez dire, si vous voulez, au développement économique local. Et donc, l'action régionale est mise en place. Et d'ailleurs, Olivier Guichard dira bien la chose suivante. Ce sont les besoins propres de l'aménagement, à l'étroit dans le cadre départemental, qui ont entraîné la prise de conscience régionale. Donc la DATAR va mettre de l'ordre dans les différents systèmes de primes, notamment qui ont été instaurés au cours du temps. Alors là, je vous mets une planche qui est amusante, enfin qui est amusante si je puis dire. La prime de reconversion, par exemple, est exigible sur tout le territoire, sauf dans un rayon de 200 km autour de Paris. Donc, elle se confondait avec une prime de décentralisation. Donc, il y a plusieurs primes qui s'empiétaient les unes sur les autres. Donc, la DATAR va essayer de rationaliser les systèmes des primes et de défiscalisation. Donc, sur la gauche, la prime au développement industriel... On voit bien l'optique qui est retenue, qui est plutôt la France attardée versus la France en avance, avec le Sud-Ouest. Et sur la droite, vous avez les éléments de défiscalisation pour soutenir l'économie et qui obéit plus à une logique de décentralisation, de lutte contre la primauté de l'espace parisien. En vert, vous avez les éléments des zones critiques qui sont déjà présentes, en fait, et c'est assez intéressant, dès les années 60, donc, et dès les années 50, on l'a vu, en fait, sur les zones critiques. Première action de la DATAR, donc, mettre de l'ordre dans les primes. Alors, la DATAR se veut comme une organisation de mission, non pas une organisation de troupes lourdes, et elle va coordonner les différents réseaux. Au cours de ces années, l'accent va être donné sur le réseau autoroutier. En fait, la loi qui fixe le statut d'autoroute est très tardive en France. Elle date que de 1955. Ce retard peut s'expliquer. Et au début des années 60, là, vous avez la carte en 65, très peu de réalisations sont faites. Des autoroutes de dégagement autour de Paris, l'autoroute de l'Estérel qui a été faite en 56, et des éléments sur le tracé Paris-Lyon. Et le général de Gaulle dit même, sous une forme de boutade, qu'on va devenir la Bretagne de l'Europe si on continue comme ça. Donc un effort particulier est fait en matière d'autoroute. Et en fait, on voit que dès les années, l'effort va porter, mais tardivement, et dès les années 70, Paris est relié à Lille. Mais si vous voulez, c'est quand même relativement tard. Et c'est un retard qu'on pourrait presque comparer au retard de la France en matière de téléphonie. Hein, vous savez qu'en France, le réseau des PTT marquait un retard certain. Et donc, on a deux réseaux qui vont se développer tardivement et qui vont... Voilà. Le monde, dans toute cette période de croissance, le monde urbain jouit d'une certaine vitalité. Il y a une espèce de relation de cause à effet entre croissance économique et croissance urbaine. La construction de logements, la construction d'équipements, la distribution des biens d'équipement est à la fois une propre au monde urbain, à la fois une cause et un effet de la croissance économique. Et en fait, si l'on regarde les évolutions du territoire, on s'aperçoit que la croissance urbaine va bénéficier surtout aux petites villes de 100 000 à 200 000 habitants. Et donc, devant ce phénomène, des petites villes croissent parfois de 100% de territoire urbain. Et devant ce phénomène, l'INSEE va introduire la notion de zone de peuplement industriel et urbain pour désigner cette espèce de phénomène que les géographes nomment rurbanisation. Donc on voit que ce phénomène qu'aujourd'hui on appelle, et j'empiète sur la fin, la périphérie, la naissance des périphéries, en fait, s'inscrit très très tôt. Alors, est-ce que cette évolution de l'armature urbaine est souhaitable, est satisfaisante, etc. La réponse est non. Dans les années 60, la DATAR prévoit que la population française atteindra 70 millions d'habitants en l'an 2000. Donc il est certain que cette évolution de la trame urbaine ne peut pas satisfaire les perspectives de croissance nationale. Et donc la réponse devant ce problème va être plurielle. D'abord, la DATAR va choisir 8 métropoles d'équilibre censées capter la croissance est censé jouer le rôle de pôle de croissance. Ce qui est intéressant, c'est que dans le choix de ces 8 métropoles, dans les programmes liés à ces 8 métropoles, il y a aussi, par exemple, une programmation d'équipements culturels. Donc, on a une dimension plurielle dans ce choix des métropoles d'équilibre. L'administration va évoluer. En 67, c'est la création du ministère de l'équipement avec Pisani. Les directions départementales d'équipement et dans les directions départementales d'équipement des groupes d'études et programmation, des GEP. Donc c'est un effort de prospective et de structuration de l'urbanisation. C'est aussi l'année de la loi d'orientation foncière, la loi LOF, qui est très importante pour l'aménagement et l'urbanisme en France. Et enfin, des grands projets vont être lancés, des projets d'aménagement touristique au Languedoc-Roussillon, par exemple, qui ont été d'importance parce qu'elles ont une dimension un peu utopiste et permettent de se projeter en avant. Et pour la région parisienne, sous la houlette de Delouvrier, de Paul Delouvrier, un proche de Gaulle, un inspecteur des finances, qui a le rang de préfet pour élaborer ce schéma. On élabore donc le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, qui sera publié en 65, qui prévoit les villes nouvelles, qui prévoit les grands aéroports, qui prévoit les grands équipements. Et je l'ai représenté par ce schéma-là. J'ai choisi ce schéma-là parce qu'il illustre, vous voyez, les deux flèches. C'est ce qu'on appelle les axes tangentiels. On veut à tout prix lutter contre le radioconcentrisme auquel on attribue tous les maux du territoire français. Donc on prévoit que la croissance urbaine va se développer selon deux axes tangentiels qui vont tangenter le centre urbain et éviter le radioconcentrisme et que tout se concentre à Paris. Et d'ailleurs, le réseau de RER a une forme de H. Il n'y a pas du tout la croisée centrale actuelle entre le RER B et le RER A, mais on relie, vous pouvez le trouver, ce schéma-là, à une forme de H. Tout ce qui ressemble tout ce qui peut inspirer ou rappeler le radioconcentrisme est condamné au nom d'une organisation polycentrique et équilibrée du territoire. Remarquez que le mot polycentrique, on entend encore assez souvent aujourd'hui. Donc, ça, c'est une carte qui résume tous les grands projets à l'époque des années 70. Il figure notamment des grandes sociétés d'aménagement dont j'ai peu parlé, mais qui, dans les années 50, ont encadré les travaux hydrauliques, les travaux de barrage, les travaux d'irrigation du territoire. Je commenterai pas la carte. On voit également aussi les métropoles, mais je ferai un seul commentaire. Sur cette carte, en fait, est absent le degré zéro de l'aménagement, si je puis dire, c'est-à-dire la mise sous cloche de la nature, la protection de la nature, et notamment les parcs nationaux de nature, notamment le parc de la Vanoise qui est créé en 60. Donc c'est l'action de l'homme, mais l'action des ingénieurs, des urbanistes, des aménageurs, mais n'est pas figuré, et c'est drôle, en un sens, ce qui est mis sous cloche, ce qui est protégé, ce qui est... donc les parcs nationaux, dont notamment le parc de la Vanoise, qui est créé en 63. Donc ça, si vous voulez, c'est l'heure de gloire avec la data de l'aménagement du territoire. On va rentrer à partir des années 60-70 dans une période de crise. D'abord, il y a une forme de saturation. Si l'aménagement du territoire est valable à une grande échelle, et je n'ai pas parlé des opérations de Fos, par exemple, ou de Calais-Dunkerque, s'il est valable à une grande échelle, à l'échelle locale, il y a une forme de saturation qui s'émet. C'est une sorte de contestation qui est rapprochée de l'esprit de mai 68. On en a marre, si vous voulez, enfin, pour parler un peu vulgairement, de l'univers de béton, de néon et de goudron, si je puis dire, de pollution. Et il y a des luttes urbaines qui s'organisent contre les rénovations de certains quartiers. Il y a la contestation de grands camps comme le camp du Larzac, par exemple. Bref, la contestation s'instaure. Les pouvoirs publics auront une réponse. Il y aura une circulaire, par exemple, barres et tours, qui va limiter la hauteur des tours et la longueur des barres pour les logements sociaux. Quand on pense aux 4000, on voit l'intérêt de cette circulaire. Mais des réponses sont apportées. Donc on crée aussi l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. On apporte quand même pas mal de réponses au début des années 70. Mais la grande crise... Ce qui va marquer la fin de cette façon de concevoir l'aménagement du territoire, c'est bien évidemment la crise pétrolière, le choc pétrolier 74. Le chômage va augmenter. On va passer de 300 000 à 2 millions entre 70 et, 80, et les années 82. L'industrie d'équipement, au cours de la même période, va perdre 1 400 000 emplois. Et donc on se doute bien que l'aménagement du territoire ne peut plus consister à répartir cette manne qu'est l'industrie pour orienter la croissance. Au contraire, il faut traiter les pôles de déshérence. Et deux principales politiques vont être menées au niveau économique. La DATAR va se lancer dans des pôles de reconversion. Calais-Dunkerque, par exemple, passe d'une situation de trop loin d'emplois à trop peu d'emplois. Donc l'idée là, c'est de coordonner tous les aspects, urbanisme, économie, aménagement, ce sont les pôles de reconversion. Et un deuxième aspect va être toute l'attention apportée à la technologie, au transfert de technologie, à l'enseignement, à la recherche, avec les CRIT et différentes infrastructures. Donc non plus des infrastructures matérielles, mais des infrastructures immatérielles. Enfin, un deuxième aspect qui apparaît dès les années 80, c'est le traitement de certains quartiers en déshérence avec ce qu'on appelle le développement social des quartiers pour traiter donc ces quartiers urbains en déshérence. Et l'action la plus remarquable et la plus aussi qui sonne comme un aveu d'échec, c'est la démolition de grands ensembles, dont par exemple les 4000 à La Courneuve, qui sont démolis dès les années 84, je crois, ont démoli des barres entières, des milliers de logements. Donc ce qu'on observe là, c'est que pour remédier aux maux du territoire qui sont apparus, on a affaire plutôt à des politiques sectorielles en matière de développement social des quartiers, en matière de transfert technologique et non plus en matière d'aménagement. Et on peut se demander quel est... J'ai encore un peu de temps. Quel est l'avenir de l'aménagement du territoire? Donc je vais aller rapidement. En fait, des nouveaux cadres vont s'imposer à l'aménagement du territoire. Le premier, en allant très rapidement, c'est bien évidemment la décentralisation en 82, qui reconnaît les collectivités locales comme des collectivités à part entière et qui donne l'urbanisme aux communes et l'aménagement aux régions. Les communes, ce sont elles désormais qui délivrent les permis de construire et non plus les services de la DDE. Les régions, ce sont elles qui font les schémas directeurs et non plus les services de la DRE. Ça, c'est la première mutation. La deuxième mutation, c'est l'Europe qui prend de la puissance. Alors, qui prend de la puissance non seulement par l'importance des crédits, par exemple, un fonds comme le FEDER qui vient concurrencer les fonds de l'État, mais aussi, si vous voulez, en termes de référence. À l'époque, dans les années 80, on s'aperçoit que d'autres organisations du territoire sont possibles. Alors là, sur la gauche est représenté ce qu'on a appelle à l'époque la banane bleue, je ne sais pas pourquoi, là elle est noire. C'est l'axe qui va de la plaine du Pô au delta du Rhin en passant par la Ruhr et qui représente une organisation un peu décentralisée et fédérative du territoire et qui s'avère très performante économiquement et qui fait contraste avec le centralisme français du territoire français. Et c'est cette référence qui influe beaucoup les esprits qui pensent au territoire. Et cette banane bleue rappelle étrangement le domaine qui est échu à l'un des fils de Charlemagne par le traité de Verdun de 840, qui est le fils Lothaire, d'où le nom de Lotharingie, et qui est représenté sur votre droite, et qui reprend à peu près le même tracé. Donc des cadres nouveaux qui sont la décentralisation et l'Europe, et puis aussi des dynamiques nouvelles. Là, je vais aller très vite en termes de transport, avec l'accélération des flux et des personnes. Le TGV, par exemple, avec l'anneau qui se crée entre Paris, la Ruhr, la Belgique, le Benelux. Donc une accélération des flux, une accélération aussi de l'information. C'est à partir des années 80 qu'est mis en place le réseau Transpact. C'est à partir des années 90 que le vice-président Al Gore va plaider pour les autoroutes de l'information. C'est à partir des années 80, je crois que le discours de Lionel Jospin qui opte pour l'Internet, c'est 96. Donc on voit une accélération. En termes de territoire, on s'aperçoit qu'évidemment, ça provoque ce que les géographes appellent un effet de channelisation, c'est-à-dire qu'on relie deux points à un autre, un point A à un point B, de façon très efficace, mais sans irriguer les régions traversées. Donc, et ça désigne plutôt une organisation en termes d'archipel. Donc les géographes ont affaire à des nouvelles organisations du territoire. En termes d'entreprise, le modèle fordien semble dépassé. Je me rappelle qu'à l'époque, on parlait toujours de Benetton qui travaillait en flux tendu et qui pouvait satisfaire la demande de façon quasi immédiate en matière de couleur de pull. Enfin, ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est pour pointer le changement de paradigme entrepreneurial qui a lieu au cours de ces années. Et il y a un lieu qui émerge comme un lieu de rencontre, de recherche de collaboration, de coopération, de relations d'autorité, de relations de créatrice de bruit. C'est la notion, c'est le lieu qui est représenté par la métropole. Alors, certes, le mot n'a plus le sens qu'il avait sous la Datar, pour la Datar en 63, mais la métropole fait figure de lieu donc de vitalité. Et là, c'est l'exemple de Lille, évidemment, qui se retrouve au cœur de l'Europe. Alors, c'est une expression un peu galvaudée, mais je pense que pour Lille, c'est vraiment vrai, qui se lance dans un grand projet d'aménagement. Alors, vous avez le croquis de l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, qui est un peu patraque, comme dirait l'autre, mais qui conjugue l'apparence stabilité d'un objet avec l'instabilité des besoins programmatiques, pour reprendre ces termes. Et puis, vous avez en bas les réalisations qui sont créées, dont l'immeuble dit « chaussures de ski » par Port-en-Part. Donc, c'est pour illustrer la vitalité de ces nouveaux lieux de à la fois économiques et territoriaux. Alors, devant ces nouveaux cadres et devant ces nouvelles dynamiques, on peut s'interroger sur ce que va devenir la politique de l'aménagement du territoire. Il y a une première réponse qui est apportée par la loi Pasqua de 1995, qui prévoit encore un schéma national d'aménagement du territoire et l'édiction par l'État de directives territoriales d'aménagement, des DTA, à l'intention des régions. Donc, si on peut dire une sorte de réaction, on cherche à réaffirmer l'unité de l'État et l'importance du territoire. Réaction n'est pas prise dans un terme négatif ici, puisqu'en fait, le territoire s'avère effectivement une donnée fragile. En 1996, par exemple, c'est la fin de l'armée de conscription et la fermeture de beaucoup de garnisons de villes en province. Et on s'aperçoit déjà là que le territoire est une donnée fragile. Ça, c'est une première réponse en 1995. Et en 1999, présenté par Dominique Voynet, et adopté une nouvelle loi qui, elle, abandonne l'idée de schéma directeur, fait exclusivement référence à l'espace européen et propose la notion de pays, une notion qui ne prendra pas, mais qui préfigure l'intérêt que nous portons aujourd'hui sur les intercommunalités. J'ai encore un peu de temps ? Alors, j'évoquerai rapidement les évolutions actuelles. La loi de Voynet avait pour titre « Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ». C'est la première fois qu'on associait durable et territoire. En fait, c'est la montée de cette problématique qui va marquer la politique d'aménagement du territoire dans les années 2010. La montée du thème de l'aménagement, du développement durable est très lisible. Hein. Par exemple, il y a la loi SRU de 2001 qui fait solidarité et renouvellement urbain, qui se donne pour objectif de limiter l'étalement urbain, donc dans une perspective de développement durable. Donc, en 2005, la Charte de l'environnement est inscrite dans la Constitution. Et en 2007, je crois, c'est le troisième rapport du GIEC qui attire vraiment l'attention sur les conséquences du réchauffement climatique en pointant les conséquences visibles du réchauffement climatique. Donc ce thème s'invite de façon grandiloquente, si je puis dire, lors de la campagne présidentielle de 2007. On a notamment sous une forme de question que pose Nicolas Hulot au candidat à la présidentielle. L'idée qu'il pose, c'est comment acceptez-vous l'idée d'un vice-premier ministre chargé du développement durable qui aurait autorité auprès sur tous les autres ministères. On retrouve l'idée d'interministérialité. Et la deuxième proposition, c'est celle de l'équipe de Nicolas Sarkozy qui propose de fondre le ministère de l'écologie, le ministère de l'équipement et le ministère de l'industrie. Alors l'idée, elle est double, je crois. Un, c'est de donner un poids politique à l'environnement. Et deux, c'est de mixer les aménageurs, les responsables des activités, des politiques en matière industrielle et énergétique, d'une part, et les environnementalistes, ceux qui sont censés défendre les environnements. Donc on a un changement de paradigme, puisque jusqu'alors, depuis la création du ministère de l'Environnement en 71, on avait conçu une sorte de précaré, un ministère de l'Environnement qui défendait, qui protégeait, qui contrôlait, mais non pas qui interagissait avec les pollueurs potentiels ou les aménageurs potentiels. À la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est effectivement ce grand ministère qui va être créé. Et il va s'en suivre des réorganisations du ministère, avec un grand ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable. Une réorganisation en direction générale. Sur le terrain, on aura la réorganisation la formation des DREAL qui va réunir les directions régionales de l'équipement, les directions de l'industrie et de la recherche et les directions de l'environnement. Et au niveau régional et au niveau départemental, on va créer les directions départementales des territoires dans le cadre de la réorganisation de l'activité territoriale de l'État, dans le cadre de l'ARIAT. Donc, dans ce cadre, alors, toutes ces politiques s'inscrivent aussi dans la RGPP, la révision des générales des politiques publiques de 2007. Et l'idée, c'est que l'État doit se concentrer sur son rôle de stratège, doit faire plutôt que faire. Et du coup, un métier qui va disparaître pour l'État, ça va être l'aménagement. Alors, vous connaissez l'État aménageur. L'effacement de l'État aménageur. Il va être, si vous voulez, double au niveau local. L'État va être de moins en moins partie prenante à l'aménagement, puisque ça va être le fait des collectivités locales. À partir de 2004-2005, il y a une grande partie du réseau routier national qui va être confié au département, avec la création des directions interdépartementales des routes. Donc là aussi, il y a une espèce de scission entre l'aménagement et les routes, donc une fin de ce qu'on peut appeler la culture équipement. Culture équipement, c'est-à-dire d'aborder en même temps les problèmes urbains, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de mobilité, les problèmes de protection, les problèmes de risque, etc. Donc là, on a la fin d'une certaine culture équipement. Ça, c'est au niveau local. Et ce qui se perd là, c'est à la fois une pratique professionnelle, mais aussi une pratique professionnalisante, parce que l'aménagement est, si je puis dire, un art d'exécution, et c'est en faisant qu'en apprenant. Et d'ailleurs, souvent, de nombreux cadres se sont formés dans le cours de leur premier poste. Et donc, c'est cette pratique professionnelle et professionnalisante qui voit une certaine fin. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau... alors, bien sûr, il y a des exceptions. J'en ai mis deux dans un sens et dans un autre. L'exception, c'est l'État qui reste aménageur au plateau de Saclay, par exemple. Là où il a un intérêt, c'est sur votre gauche. Le plateau de Saclay, avec les grands investissements à la fois transport et d'équipement universitaire, avec Centrale, avec le NS Cachan, avec les labos de l'IX, etc., etc. Ça, c'est l'État qui reste aménageur. Et puis, parfois, l'État se défile, entre guillemets. C'est sur la gauche, c'est Europa City, le projet d'Europa City. C'est des terrains qui appartiennent à l'État, qui sont préemptés depuis les années 60 par la FTRP, qui est devenue Société d'aménagement du Grand Paris. Et c'est 80 hectares qui sont vendus à Immochamp pour le projet Europa City. Donc là, si vous voulez, on a un bloc de territoire qui se détache. Et c'est pour vous montrer que la position, on est dans une phase de transition où le rôle de l'État, au niveau opérationnel local, est en phase de transition. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau régional, si vous voulez, l'aménagement régional est confié aux régions. C'est la loi NOTRe qui insiste sur la création de SRADDET, de schémas régionaux d'aménagement et de développement et d'égalité des territoires, où on réunit tout, on réunit à la fois l'écologie, les transports, la mobilité, l'aménagement, l'égalité des chances, etc. On en fait des espèces de super documents pour gérer l'aménagement du territoire régional. Et on voit qu'on est passé en quelque sorte de l'aménagement du territoire à l'aménagement des territoires, les territoires en question relevant de la compétence de collectivité. Et ce qui compte maintenant, désormais, c'est non plus l'aménagement du territoire, mais c'est plutôt la cohésion des territoires, ou plutôt solidarité, coopération. Et c'est en 2014 qu'est créé le Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGETT, en mars 2014, qui réunit la DATAR, le Comité interministériel des villes et l'Agence nationale de la cohésion pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Donc, si vous voulez, le territoire national n'est plus une référence et on est passé de l'aménagement du territoire à l'aménagement des territoires avec tous les problèmes de cohérence que cela pose. Voilà. Je m'arrête là. Voilà. Bon.